Pendant cette année de formation de technicien polyvalent, j'avais ça en plus dans mes bagages. Et assez rapidement, ils m'ont dit, Camille, tu fais partie de la prochaine promo des apprentis régisseurs plateau. Tu écoutes la deuxième partie de l'épisode Technicien plateau et machiniste, c'est quoi ? Dans la première partie, je racontais l'histoire du théâtre et de la machinerie du 5e siècle avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie, je vais revenir sur mon parcours professionnel de stagiaire à technicienne plateau depuis bientôt 10 ans. Je vais raconter mes réussites et aussi mes mésaventures. C'est surtout suite aux embûches que j'ai avancé et appris sur moi, alors je te partage tout ça ainsi que mon opinion et ma vision du milieu du spectacle selon ces expériences que j'ai pu vivre. Cela n'engage évidemment que moi. Bonne écoute! Depuis mon enfance, je n'ai jamais su quel métier je voudrais faire. Je n'ai jamais eu de rêve en me disant j'ai envie de faire tel métier, telle carrière. Je ne savais pas du tout. Je savais juste, voilà, que j'étais plutôt littéraire, donc j'ai fait un bac L. Et ensuite, je suis allée à la fac et j'ai fait une licence art du spectacle. J'explique dans un de mes premiers épisodes où, avec mes potes, on parle de la licence art du spectacle, justement, où, voilà, on raconte comment on est arrivé jusqu'à cette fac. Ce que j'explique dans l'épisode, c'est que je me suis inscrite dans la licence art du spectacle, pas par dépit, mais en tout cas, je ne savais pas ce que j'allais y faire et je ne savais pas du tout où ça allait me mener et pour quel métier, en fait, en termes de carrière, ce que ça allait m'apporter. Ça me passionnait tellement les cours que les deux premières années, j'étais dans une bulle. Tout ce qui comptait, c'était réussir mes examens. Mais c'est seulement lors de la troisième année où ça a un peu fait tilt en me disant « Mais en fait, je sais pas, je sais toujours pas ce que je vais faire. » Et où j'ai compris que oui, effectivement, je pouvais continuer dans le milieu théâtral et que je pouvais peut-être imaginer une carrière dans le spectacle. Mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais vraiment pas du tout. Donc j'ai fait des stages pour explorer un peu les métiers du théâtre. Alors au début, je devais faire un stage pour en gros faire les plannings, booker les gîtes ou les hôtels des compagnies et tout ça, répondre au téléphone. Et en fait, je n'ai pas fait ce stage parce qu'ils me demandaient d'être beaucoup disponible et moi en fait j'avais les cours à côté donc c'était pas possible. Ensuite, j'ai fait un stage au théâtre de Caen qui était en travaux. Donc en fait, il y avait une création de spectacle qui était un opéra. Donc c'était mon tout premier opéra. Et ça se passait hors les murs. Le spectacle était créé dans un ancien manège à chevaux. Et puisque le théâtre était en travaux, il y avait tous les bureaux en fait de toutes les équipes administratives, etc. Je crois qu'ils avaient dû louer un espace pour faire leur bureau en ville, et en même temps il y avait toute la création dans le manège, donc le personnel n'était pas sur place pour veiller à ce que tout se passe bien, et donc moi je faisais le tampon entre l'équipe de théâtre et l'équipe artistique qui était en création. Je faisais plein de choses, préparer le catering, donc le catering c'est veiller à ce qu'il y ait du café, du thé, des biscuits, des fruits, ce genre de choses pour que les artistes se sentent bien. Je devais veiller sur des mineurs aussi qui jouaient pendant le spectacle, vérifier qu'elles étaient bien arrivées, qu'elles repartaient bien, qu'elles se sentent bien, qu'elles repartent à l'heure avec les bonnes personnes, etc. Je faisais aussi le tampon en distribuant les contrats, notamment, voilà, je parlais de beaucoup de paperasse dans l'intermittence, donc voilà, souvent je venais de distribuer les contrats, voilà, des choses comme ça. Donc je faisais un peu accueil artiste et surtout donner un peu des retours sur ce qui passait aux équipes qui étaient dans les bureaux. Ça, c'était une super expérience, j'avais adoré. Et en fait, moi, j'avais un mot à la bouche, c'est que j'avais envie d'être sur le terrain. Et donc, j'en ai parlé à la directrice de La Brèche à Cherbourg, qui est un lieu de création de spectacles de cirque. Et je suis allée voir cette femme et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je peux faire dans le théâtre ? J'ai envie d'être sur le terrain. Et c'est elle qui m'a dit, bah, sur le terrain, tu peux faire partie de l'équipe technique. Et c'est comme ça que je suis partie à la recherche de la découverte de ce métier. J'ai contacté une compagnie qui passait dans ma ville, donc qui passait à Caen. Et je leur ai écrit et je leur ai demandé, est-ce que je peux venir une journée pour vous aider à faire le montage du décor? Parce que je voudrais voir comment ça s'organise un spectacle techniquement et si ce serait un métier qui me plairait. Et donc j'ai fait cette journée, j'ai adoré, j'ai surtout fait une superbe rencontre avec le régisseur de cette compagnie. C'est lui qui m'a proposé de refaire un autre stage. Et là, je sais plus, je crois que c'était un stage de un mois où vraiment j'apprendrais avec lui les bases du métier. Donc il m'a appris à faire les nœuds de base, à faire des accroches, le système de poulies et de fils. Il m'a montré toutes les bases de la lumière, les projecteurs, comment les brancher, etc. Donc voilà, je venais de découvrir ce métier, ça me plaisait et il fallait tout de suite que je trouve comment continuer dans cette voie. Donc j'ai cherché sur internet et la plus grande formation en fait en France, ça s'appelle le CFPTS, donc c'est le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle. Et là-bas tu peux faire des formations pour être régisseur plateau ou régisseur son ou régisseur lumière. Déjà ça j'aimais bien parce qu'on m'avait beaucoup dit que dans ce métier il fallait se spécialiser, avoir vraiment quelque chose où tu sais faire, où tu maîtrises quelque chose, donc soit le son, soit la lumière, soit le plateau. Mais voilà, j'avais aussi des discours inverses qui me disaient mais non, faut savoir tout faire, faut être technicien polyvalent, faut savoir un peu de tout. Donc voilà, j'étais un peu partagée mais j'aimais bien quand même l'idée d'avoir une spécialisation et vraiment le plateau c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc je me suis inscrite pour faire une formation de régisseuse plateau. Et il y avait forcément des sélections, donc j'ai dû faire un dossier j'imagine, je sais même plus. Je sais plus s'il y a une sélection par rapport à ton dossier, mais ensuite j'ai fait un examen écrit. Là il y a une sélection, et ensuite tu peux être appelée pour faire l'examen oral. Donc l'examen écrit, je l'ai eu de justesse. Et ensuite, j'ai fait l'entretien avec le jury. Et en fait, assez rapidement, ils m'ont dit que en gros, j'avais pas l'air d'être passionnée par ce métier et qu'ils m'y voyaient pas forcément, que ce serait pas cette année. Enfin, je pense qu'il manquait une certaine maturité peut-être au moment où j'ai postulé pour cette formation. Donc, je suis revenue un peu penaude à mon stage. Il me semble que j'étais en stage le jour où j'ai reçu la réponse où c'était négatif. Et voilà, et en même temps, je comprends en fait l'idée de dire que j'étais pas passionnée par ce métier parce qu'en fait, je venais à peine de le découvrir. En fait, je savais à peine de quoi je parlais quand j'y pense à ce premier entretien. Je parlais du métier sans vraiment imaginer ce que c'était concrètement. Donc, je suis très reconnaissante qu'il m'ait pas pris cette année-là. Et en fait, le truc de fou qui s'est passé, c'est qu'au même moment, donc j'étais en stage au Havre avec une compagnie havraise, donc c'était l'été et la rentrée d'après, il y avait une formation qui venait de se créer au Havre de technicien polyvalent. Donc c'était une formation technicien, son, lumière, plateau, du spectacle vivant et de l'événementiel. Et à la base, le régisseur que j'avais rencontré, il voulait que je postule pour cette formation-là au Havre. Et voilà, il n'était pas hyper d'accord avec moi que je parte à Paris faire le CFPTS. Enfin, il trouvait en fait, lui, que j'avais pas besoin de faire des études aussi poussées pour être régisseuse plateau et me spécialiser, alors qu'il y avait une formation au Havre qui s'ouvrait. Moi, je vivais pas au Havre, mais voilà, c'est toujours une possibilité de déménager pour suivre tes études, quoi. Vu que j'ai été refusée au CFPTS, je m'étais inscrite en même temps à cette formation au cas où que ça ne fonctionne pas. Et à cette formation, c'est pareil, je crois qu'il y avait un écrit et un oral. Et par contre, l'oral face au jury, j'ai senti tout de suite que ça allait le faire, que je correspondais mieux à ce que eux ils cherchaient aussi comme type de profil pour leur première année. J'avais besoin de partir dans une formation pour apprendre toutes les bases du technicien, et c'était complètement ça, quoi. Et mon CV, il matchait bien avec les profils qu'il recherchait, donc j'ai senti assez vite déjà le feeling passé avec la personne qui s'occupait de la formation, Et j'ai senti, voilà, que ça allait le faire. J'ai été prise, c'était une formation où on était 12 de mémoire. Et voilà, j'avais enfin quelque chose pour ma nouvelle rentrée. Donc j'ai quitté la fac et tout de suite après, j'ai déménagé. Je suis allée sur le Havre pour suivre cette formation. Bon, par contre, ça a été pour moi une des pires années de ma vie parce que ça n'allait pas du tout dans le groupe dans lequel j'étais en fait. J'avais vraiment l'impression d'être l'intrus. Ils étaient tous soit musiciens ou ils rêvaient tous de partir en tournée dans des tourbus avec leur groupe de musique ou des trucs comme ça. Moi, ce que je connaissais, c'était pas du tout la musique, c'était le milieu du théâtre. J'aimais le théâtre, c'était ma passion, le spectacle vivant. Et vraiment, j'avais l'impression d'être l'intrus. Et aussi qu'on me prenait pour celle que je n'étais pas, l'intello, je suivais super bien les cours parce que je venais de me taper 3 ans de fac. Donc voilà, la fac, t'as des profs qui parlent, tu prends des notes et tu te débrouilles avec ça en fait. J'avais l'habitude de prendre des tas de notes, de noter tout ce que les intervenants disaient. Et voilà, je suis passée pour la meuf, je pense chiante, coincée, intello, alors que je ne suis pas du tout intello, mais vraiment pas. Il y avait la moitié des cours que je ne comprenais pas. Mais je prenais juste bien mes notes, quoi. Et en plus de ça, bah voilà, j'en parle dans le podcast. Je suis une personne timide, introvertie. Quand j'allais avec eux, je trouvais que leur discussion n'était pas intéressante. J'avais l'impression de revenir, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans en arrière, avec des gens qui parlaient de sujets qui ne m'intéressaient pas. Je me suis exclue moi-même. Ça aurait pu en rester là, mais il y avait quand même quelques personnes dans le groupe qui me faisaient chier, quoi. Vraiment, qui se plaisaient à m'emmerder. Et voilà, moi, j'étais pas forcément très heureuse dans cette formation. Alors, c'était hyper paradoxal parce que dans ma vie perso, j'étais très heureuse. Voilà, je venais d'emménager avec quelqu'un, j'étais très heureuse. Et dans la formation, c'était des journées qui pouvaient me sembler très longues et où j'étais toute seule pendant les pauses, etc. Et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, ça peut m'arriver de travailler avec des gens avec qui j'étais à cette formation et ça se passe très bien avec eux. Et voilà, on a pu rediscuter. Mais c'était vraiment le groupe contre moi, en fait, qui faisait que je passais pas forcément des bons moments avec eux. Et où, en tout cas, où on partageait pas grand-chose, quoi. J'avais quand même un vrai pote où, au bout d'un moment, voilà, on a passé toute l'année que tous les deux contre les autres. Et puis, quelques personnes avec qui je m'entendais bien. Mais voilà, quant à l'effet de groupe... contre une personne ou deux personnes, voilà, c'est pas toi qui gagne. Et en revanche, dans cette formation, on avait obligatoirement 3 stages, et chaque stage durait 3 semaines. Et les moments de stage, mais c'était génial, c'est vraiment là où je découvrais mon métier, et en plus j'ai fait 3 stages assez différents, donc j'ai fait mon premier stage à La Brèche, donc le lieu de création des spectacles de cirque, j'ai beaucoup aimé, même si voilà j'étais encore très timide, je n'osais pas faire les choses, j'étais vraiment plutôt dans l'observation. Ensuite, j'ai fait mon stage avec la compagnie Havraise, où on est parti pendant 3 semaines en tournée, vraiment pile le moment de mon stage, c'était vraiment le gros moment de leur tournée, ça tombait à pic, où en 3 semaines, on a dû jouer, 15 ou 17 représentations, et on a fait 3 lieux différents, donc soit des creux entre les villes différentes, soit ça s'enchaînait complètement, on démontait et le lendemain on montait ailleurs. C'était un spectacle jeune public que j'ai adoré. Donc souvent on avait des représentations scolaires et on jouait 2 fois par jour. Et ça vraiment j'ai adoré ce stage, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis sentie mieux aussi du fait d'être avec des gens que je connaissais. Et ensuite j'ai fait un dernier stage dans un opéra. Où là je suis arrivée dans un autre monde où pour le coup on est 20 ou 30 à travailler sur le plateau en même temps. Et là vraiment c'est un autre type de travail encore que dans les petits théâtres. Où voilà, on est quelques techniciens à monter le spectacle. Là, je rentrais vraiment dans une grosse entreprise. Et voilà, ça m'a permis vraiment de voir différents lieux, comment ça se passe. Et c'était assez complémentaire. Et en plus, ces stages-là se sont vraiment bien passés. J'ai fait de super rencontres. Et je me rappelle très bien que la personne qui s'occupait de la formation, j'avais fait une réunion avec elle pour lui dire « Écoute, ça ne va pas du tout, je me sens pas du tout bien dans la formation. » à cause des autres, à cause du groupe dans lequel je suis. Par contre, quand je suis en stage, ça se passe trop bien. Les intermittents avec qui je parle et que je rencontre, je me sens à l'aise avec eux, ça se passe bien. Donc je comprends pas pourquoi dans la formation ça se passe pas bien. Donc elle m'a dit, en fait c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Si ça se passe bien dans le milieu professionnel, c'est que c'est bon, c'est que ça va aller. Et ne te concentre pas sur les gens, où les gens sont un peu encore dans le système d'école, de groupe. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était me professionnaliser et sortir en fait de ce truc scolaire, quoi. Donc j'ai fait cette formation qui s'est passée plus ou moins bien. Les cours, c'était très bien. En son et en lumière, je trouvais qu'on allait vraiment loin. C'était hyper poussé. Et au plateau, pas tant que ça. J'ai eu quelques cours quand même pour apprendre à monter des praticables, voilà. J'ai des souvenirs où on a appris à faire des nœuds, etc. Ou tout ce qui était réglementaire, la sécurité, les coefficients. Mais voilà, moi je me sentais pas de travailler après cette formation. Alors que j'aurais pu, et il y a plein de personnes du groupe dans lequel j'étais qui ont travaillé à la suite et qui sont devenus intermittents en fait à la suite de cette formation. Moi, je me sentais pas encore prête pour travailler directement après cette formation parce que aussi c'était très théorique. En pratique, à part les stages, on n'avait pas fait grand chose. Donc voilà, 3 fois 3 semaines, pour moi ça me semblait pas suffisant pour me dire ça y est, je suis une professionnelle et je vais proposer mes services. Donc j'ai retenté le CFPTS, je me suis réinscrite. Mon dossier est passé. L'écrit, ça s'est passé beaucoup mieux. J'ai eu des bien meilleures notes. Et au moment de l'entretien, j'étais super à l'aise. On a eu une super discussion avec les jurés. Voilà, ils m'avaient déjà vu l'année d'avant. Ils avaient l'air de s'en souvenir. Ils m'ont encouragée. Ils m'ont dit, bah voilà, t'as vu, tes notes, elles sont vachement meilleures comparées à l'année dernière. Et en fait, en discutant, je pouvais vraiment parler de mon métier parce que j'en avais fait l'expérience pendant cette année de formation de technicien polyvalent. J'avais ça en plus dans mes bagages. Et assez rapidement, ils m'ont dit « Camille, tu fais partie de la prochaine promo des apprentis régisseurs plateau ». Donc en fait, je suis partie de mon entretien. Je savais déjà que j'étais prise au CFPTS. Et a priori, j'étais la seule de ma promo à qui c'est arrivé. En fait, normalement, le jury, il te dit pas que t'es pris, tu attends de recevoir une lettre, je sais pas, plusieurs semaines après, quoi. Le temps qu'ils fassent leur délibération. Et je me rappelle très bien la personne qui s'occupait à l'époque des apprentis du CFPTS. Je me souviens très bien qu'il m'a dit, écoute Camille, on n'a même pas besoin de délibérer, je pense que je peux parler au nom de tout le monde, tu feras partie de la prochaine promo. C'est peut-être une anecdote un peu longue, mais en plus, le jour où je faisais l'entretien pour le CFPTS, c'était le jour de mes examens pour la formation de technicienne polyvalente. Donc c'était un truc de fou, j'ai dû faire un choix parce que je devais à la fois être en train de faire les écrits de la formation que je venais de suivre et à la fois j'étais convoquée pour faire l'oral. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je leur ai dit pendant l'entretien. Je leur ai dit, écoutez, là, je me tiens devant vous, mais je suis censée être en train de faire un examen pour être qualifiée à la fin de l'année. Et donc là, j'ai pris le risque de ne pas passer ces écrits pour être là devant vous et pour espérer faire partie de la promo du CFPTS de l'année prochaine. Donc ça, c'était une grosse prise de risque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais plus, je crois que j'avais mon entretien à 14h ou 15h, et c'était à Paris. J'ai fait mon entretien, ensuite je suis repartie, j'ai fait la route Paris-Le Havre, et le surveillant, il avait accepté qu'au moment où j'arrive, que je passe les écrits. Donc je suis arrivée, il y avait encore des personnes de ma promo qui étaient en train de finir les écrits. Et moi, je suis arrivée dans la salle et je commençais. Et le surveillant, il y avait accepté de rester jusqu'à ce que moi, je termine. Mais alors, je suis arrivée aux écrits, mais sur un petit nuage. Je savais déjà que mes 2 prochaines années, j'allais être apprentie régisseuse plateau. Je savais déjà dans quel lieu j'allais être apprentie en plus. Parce que j'avais dit à mes lieux de stage que j'allais retenter le CFPTS et mes 2 lieux, donc La Brèche et l'Opéra, m'avaient proposé de me prendre en tant qu'apprentie, si ça le faisait. Donc je savais déjà qu'en plus j'avais le choix de mon lieu, alors les écrits, mais j'étais sur un nuage et je n'avais pas de stress. C'était vraiment un moment incroyable. Et voilà, je remercie encore ben voilà, la personne qui s'occupait de la formation, de s'être démenée pour que je puisse tout de même passer les écrits, alors que je n'étais pas là à l'heure de la convocation, et ce surveillant qui a accepté de m'attendre. C'était vraiment une journée, mais complètement dingue. Et voilà, du fait de ça, j'ai quand même pu passer mes écrits et être qualifiée à la fin de cette formation, ce qui était vraiment le clou du spectacle, parce que ça aurait été vraiment dommage que je puisse pas passer les examens et que je me qualifie pas. Mais même par rapport voilà, à la formation, toute l'équipe elle avait été géniale et j'avais envie, au moins pour leurs statistiques, c'était leurs premières années, que toute la promo ait participé et été jusqu'au bout de la formation, à faire les entretiens, à faire les examens. Et en plus, voilà, j'ai fait partie de ceux qui ont été qualifiés. C'était vraiment génial que ça se termine comme ça, cette expérience. Et c'était assez drôle aussi, parce qu'à partir du moment où j'ai dit que j'étais prise au CFPTS et que j'allais être apprentie, c'était un peu bizarre, parce que les gens de mon groupe, ils m'ont regardé un peu d'un autre œil, comme si j'étais la nouvelle copine à avoir un peu. Je sais pas s'il y en a qui m'écoutent un jour, qui écoutent cet épisode, ils seront peut-être pas au courant, mais il y avait certaines personnes où, soudainement, on était plus sympa avec moi, quoi. Ensuite, je suis rentrée au CFPTS, donc c'était un apprentissage de 2 ans. J'ai dû faire le dur choix, soit de faire mon apprentissage à la Brèche de Cherbourg, soit à l'Opéra de Rouen. Et j'ai choisi l'Opéra de Rouen parce qu'à la Brèche, déjà, le directeur technique, il est tout seul. Il n'y avait pas de régisseur. Je ne sais pas si ça a changé, mais en fait, l'équipe technique, elle est quasiment inexistante en termes de personnel permanent. Ce sont vraiment les techniciens intermittents qui sont embauchés et qui faisaient un peu tourner la boutique. Et moi, j'avais pas très envie de ça. Enfin, j'avais vraiment envie d'être accompagnée, d'avoir un tuteur qui soit là. Et aussi, surtout, Cherbourg, bah, c'est une pointe, c'est la pointe de la France, et les intermittents m'avaient un peu prévenu qu'il n'y avait pas beaucoup de travail là-bas, que c'était difficile de faire 16 heures, alors que voilà, l'Opéra de Rouen, ça semblait vraiment un lieu plus facile d'accès, parce que Rouen, il y a beaucoup de théâtre, c'est une grande région, la Seine-Maritime, où il y a plein de théâtre, on se rapproche de Paris. Si vraiment je galère à trouver du travail sur la région, je pouvais aller sur Paris. Ça me semblait d'être un meilleur choix vraiment stratégique en termes de carrière. Et surtout aussi pour le suivi, voilà, l'Opéra de Rouen, il y a plusieurs régisseurs plateaux, plusieurs régisseurs généraux, c'est des grosses équipes. J'ai aussi beaucoup appris pendant mon stage là-bas grâce aux intermittents, parce qu'ils sont nombreux. Et je me sentais mieux d'aller apprendre dans ce lieu. Donc j'ai fait ces 2 ans de CFPTS. Parfois j'allais en cours, donc c'était des cours théoriques 9h-17h. On a pu avoir aussi des cours pratiques. À la fin de l'année, on a monté un spectacle. Donc il fallait qu'on fasse tout nous-mêmes et toute la promo mélangée. Donc ça, c'était génial. Par contre, une fois de plus, je me suis pas senti vraiment bien dans le groupe parce qu'il y avait vraiment des gens, une fois de plus, qui étaient très scolaires, voilà, enfin, il se passait des choses que je trouvais ahurissantes. En fait, au CFPTS, les intervenants, ce sont des professionnels, donc c'est un régisseur d'un théâtre, c'est un régisseur d'une compagnie, on a eu un constructeur de décor, et en fait c'est des gens qui sont plus ou moins pédagogues, parce qu'en fait ce n'est pas leur métier de donner des cours, et ils viennent avec leurs connaissances, avec leurs expériences. Donc c'est très concret d'avoir des cours avec ces gens-là, parce qu'ils connaissent vraiment le métier. C'était génial d'avoir ces intervenants-là. Et dans mon groupe, s'il était 11h pile et que c'était l'heure de la pause, ça coupait la parole, ça partait en pause. Moi, je trouvais ça assez hallucinant, en fait, de se comporter comme ça. Enfin, c'était trop scolaire. Et même en termes d'organisation, je pense que ça commençait à me saouler un peu, ce truc scolaire. Et ce qui me plaisait vraiment dans l'apprentissage, c'était le moment où t'es dans l'entreprise. Parce que ce qui était génial, c'est qu'il y avait plus de temps en entreprise que de temps théorique de cours. Donc vraiment, moi, je me suis installée dans la région. Quand j'étais apprentie, donc je faisais partie de l'équipe permanente de l'opéra, je travaillais sur les spectacles, je pouvais travailler les week-ends, travailler tard le soir. Et par contre, quand je retournais en cours, eh ben, c'était du 9h-17h. Et tous les jours, je prenais le train Rouen-Paris. Et c'était une course contre la montre tous les jours. C'était 2 années hyper intenses. La première année, elle a été super dure. Je loupais le train, ou le train était en retard, ou le train était en panne. Et en fait, je prenais le premier train qui partait à 5h57, je me souviens. Et le soir, je rentrais, il était 19h, 20h. Ça pouvait arriver qu'il y avait tellement de retard que j'arrivais à 21h chez moi. Et le moindre retard de train, quand j'arrivais à la gare, je pleurais parce que je venais de courir. Tous les soirs, je quittais les cours 10 à 15 minutes plus tôt. Donc tous les jours, je négociais avec les intervenants en leur disant « j'ai un train, il faut que je parte plus tôt ». C'est des choses que je n'aime pas faire. Et voilà, je courais tout le temps. Les fins de journée, c'était tout le temps à regarder ma montre, à quelle heure je devais partir, anticiper, courir. Et pour qu'au final, mon train, il soit en retard, ou il soit pas là, ou il soit annulé. Et ça, c'était vraiment horrible. C'était intense, émotionnellement, physiquement. Alors, ce qui aurait pu être bien, c'était que au moins, quand j'étais en cours, j'avais mes week-ends. Sauf que pendant ces 2 ans, vraiment pile pendant ces 2 ans, j'ai fait partie d'une troupe amateur où on a créé un spectacle. On essayait de faire un spectacle semi-professionnel, donc on avait imaginé un décor, énormément de costumes, et donc on répétait les week-ends. Donc les week-ends où j'étais censée me reposer, et ben je partais faire les répètes de ce spectacle, et en plus c'était pas dans ma région, j'avais 3 heures ou 4 heures de route, je sais plus. Donc c'est pareil, le samedi je me relevais à 6h ou 5h du matin, je prenais la route avec mes potes et on s'en allait pour la création de ce spectacle qui me prenait mais toute mon âme et tout mon cœur. Donc c'était passionnant, mais c'était vraiment 2 années intenses entre les cours, la création du spectacle, les répètes, les moments où on a joué en fait. Enfin on a pu jouer quelques fois ce spectacle et puis bah, les moments où j'étais... apprenti et où je pouvais finir à n'importe quelle heure. Donc c'était vraiment 2 années où je vivais à 100 à l'heure, j'étais hyper concentrée là-dessus et en plus à côté de ça il y avait aussi ma vie personnelle. Vu que je me suis installée dans la région pour être proche de mon apprentissage, je me suis énormément éloignée de ma famille. Donc aujourd'hui pour voir ma famille j'ai plus de 3 heures de route. Donc c'est pareil, dès que j'avais enfin un week-end libre, eh ben je partais voir ma famille. J'avais toujours le même conjoint qu'au moment où j'ai commencé mes études dans la technique. Et voilà, j'avais tout ça en même temps. Et donc, 2 années hyper intenses où j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais, notamment par le spectacle amateur qu'on créait. Et je vivais que pour ça. Et j'ai terminé... Ces 2 ans, j'ai été qualifiée, donc régisseuse plateau, j'ai réussi les examens à la fin de l'année, c'était surtout dans la pratique. Et voilà, 3 années d'études en technique se sont achevées, enfin, et vraiment à la fin de ces 2 années, j'avais besoin de repos, je me sentais prête pour travailler, et en même temps, les intermittents que je rencontrais, beaucoup se plaignaient du statut intermittent, de la difficulté pour faire ses heures. Voilà, il y a eu, je pense, des réformes qui ont fait perdre de l'argent à beaucoup de gens. J'avais quand même un stress, je me sentais prête pour travailler, je sentais que ça y est, je pouvais proposer mes services en tant que professionnelle, mais par contre, le statut intermittent, ça me faisait peur. Cette liberté, pouvoir travailler à droite à gauche. L'opéra, il me donnait un planning tous les mois, j'avais des horaires à respecter, et voilà, ça se faisait tout seul, et j'aimais en fait ce truc de rythme à respecter. Et en fait, généralement, les régisseurs de l'opéra, ils m'envoyaient un planning 1 mois à l'avance. J'ai terminé par une période à l'opéra, et il me restait 2 semaines. Et je n'avais toujours aucun planning. L'opéra ne m'avait rien envoyé, et moi je comptais vraiment sur eux. En plus, ils m'avaient dit que eux, ça faisait partie aussi de leur politique de faire en sorte que leur apprenti il puisse avoir son statut et l'opéra serait l'accompagnant pour être sûr que ça se passe bien. Et en fait, je n'avais rien, je n'avais pas de planning Je pense que je m'étais un peu laissée porter avec tout ce qui s'était passé dans ma vie pendant ces 2 ans. Je n'avais pas du tout eu le temps, ou en tout cas, j'avais pas du tout pris en compte qu'il fallait anticiper en fait les embauches dans d'autres théâtres. J'étais à 2 semaines de terminer mon contrat et je n'avais toujours pas envoyé mes CV dans les théâtres de la région. Je n'avais toujours pas été rencontrer des régisseurs. Je n'avais mais vraiment rien fait, comme si le travail allait me tomber sur la tête comme par magie. Et en fait, bah non, j'avais rien. Je me suis retrouvée une fois de plus à me dire, oh, je suis au bord du gouffre, je n'ai rien. Dans 2 semaines, mon contrat s'arrête et je sais pas ce que je vais faire. C'est juste que j'ai pas anticipé. Et arrive un fameux jour qui a bouleversé totalement mes plans, où un des régisseurs de l'opéra reçoit un mail disant, nous sommes tel théâtre, nous venons de nous installer, nous recherchons un régisseur général. Nous aimerions un profil jeune pour que la personne puisse apprendre et se former avec nous. Et le régisseur vient me voir et me dit, Camille, viens voir ce mail, regarde, je trouve qu'il te correspond totalement, je trouve que tu devrais postuler, c'est pour un CDI, c'est une occasion qui n'arrive jamais. voilà, t'auras peu de chance dans ta vie de pouvoir postuler pour un CDI. Franchement, vas-y. Je regarde, ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais là, mais je n'ai pas du tout envie de signer un CDI. Mais en même temps, j'étais dans le truc de j'aime bien quand même avoir un cadre. J'étais partagée entre oui, c'est vrai que j'aimerais continuer à avoir un cadre, oui, c'est vrai que l'intermittence me fait peur, mais voilà, là, je suis prête à me lancer. Et je n'étais pas du tout dans l'optique de signer un CDI là maintenant, mais vraiment, je n'avais pas envie de ça. J'avais envie de me faire violence et de me lancer dans l'intermittence. Et en fait, ben, j'ai un peu paniqué parce que je me suis retrouvée face à cette proposition alléchante. Parce qu'en plus, régisseur général, c'est ce que j'espérais dans ce que j'imaginais de ma carrière. Voilà, j'imaginais être technicienne, machiniste, ensuite régisseuse plateau. J'avais dans l'ambition de devenir régisseuse générale par la suite pour faire peut-être moins de techniques physiques, manuelles, mais de plus, voilà, chapeauter dans les bureaux et faire de la régie générale. Là, le poste, ça semblait assez alléchant. J'ai téléphoné, le contact s'est bien passé au téléphone et je suis allée à la rencontre de ces personnes. En fait, c'était un théâtre privé. Moi, je ne connaissais pas du tout le système du théâtre privé puisque j'avais eu uniquement des expériences dans des théâtres subventionnés. Et en fait, dès la rencontre avec ces gens-là, je ne l'ai pas senti. Et vraiment, ma première sensation, ça a été de ne pas me sentir bien avec ces gens-là. Et j'aurais dû me fier à cette première impression. Bon. Mais en fait, je me sentais presque déjà engagée avec eux. Et je suis pas du genre à revenir rebrousser le chemin, en fait. Eux, ce qu'ils proposaient, donc c'était un théâtre privé qui était vraiment tout petit, qui accueillait des petites pièces de théâtre. Et des humoristes. Vraiment, le but de ce théâtre, c'était de recevoir que des comédies, que du spectacle humoristique ou du stand-up ou voilà, ou des humoristes. Ce qu'ils m'ont proposé, c'était un poste où j'allais accueillir les régisseurs des compagnies. On appelle ça faire du babysitting en fait. Les compagnies, tu les accueilles. Le régisseur, lui, c'est lui qui va être à la console lumière et à la console son et qui va faire tout ce que, voilà, tous les changements lumière, tous les top sons du spectacle. Moi, je m'étais dit, bah oui, ça me va carrément d'accueillir les régisseurs, de connaître parfaitement mon lieu et de, voilà, de faire les montages, etc. Et ils m'ont dit aussi, par contre, il y a aussi des fois où les spectacles n'ont pas de régisseur, donc ce sera toi derrière la console. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, ah, mais je suis pas du tout la personne que vous recherchez, parce que moi, je suis régisseuse plateau, j'ai jamais fait de lumière et j'ai jamais fait de son. Donc non, non, moi, je peux pas faire ça. Et déjà, j'ai très vite compris que régisseuse plateau, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, que c'était des gens qui ne venaient pas du milieu du spectacle à la base, ils étaient en train de tout découvrir, et ils étaient là, mais si, t'inquiète pas, même nous on le fait, parce que là, au moment où moi je postulais, ils n'avaient plus de régisseur dans leur théâtre, et du coup, bah, ce sont eux-mêmes qui faisaient les régies des spectacles et qui ont dû apprendre rapidement à comment programmer la console lumière et la console son pour que les spectacles jouent, quoi. Et ils étaient là, mais si, même nous, on sait le faire, on va t'apprendre, t'inquiète pas, tu vas avoir des formations, on va te faire une formation lumière et une formation son. Ok, super, donc moi je me sentais carrément rassurée. Et moi je me suis dit, bah oui, vas-y, de toute façon, à la console, ça va être vraiment anecdotique, donc voilà, je peux le faire, j'ai voulu relever le défi. Et alors que je venais de faire 2 ans de régisseuse plateau, et là j'acceptais un poste pour ne plus du tout faire de régie plateau, parce que vraiment les spectacles ils sont tout petits, et il n'y a quasiment pas de décor quoi. Donc j'étais en train de signer un CDI pour faire de la régie lumière et son, et soi-disant de la régie générale quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, donc effectivement, ils m'ont montré comment ça fonctionnait, j'ai eu une formation lumière pour vraiment comprendre mon lieu, comment il fonctionnait, c'était tout petit, donc eux, ils avaient un fonctionnement qui était totalement différent des théâtres subventionnés, la technique pour eux, c'était pas important. Assez vite, je me suis bien débrouillée, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne recevais quasiment jamais de régisseur. Enfin, c'était super rare. Je recevais des spectacles tous les jours, mais vraiment tous les jours. Au départ, c'était du mercredi au dimanche, donc tous les soirs, je travaillais et j'avais le lundi et le mardi en pause. Et même des fois, ils programmaient des spectacles et du coup, c'était eux qui faisaient les régies. Donc des fois, le théâtre, il tournait 7 jours sur 7. Donc ça, dans le théâtre subventionné, ça n'existe pas. Enfin, un spectacle, il est accueilli sur plusieurs jours. Donc il peut y avoir une journée de montage, 2 journées de montage. Après, ça joue le lendemain. Là, vraiment, l'artiste, il arrivait à 15h. Il me donnait sa conduite et j'apprenais tous les tops. Je créais avec lui tous les tableaux lumière. Il me donnait sur une clé USB tous les sons que j'allais devoir lancer dans le spectacle. Et je suivais sa conduite ou le texte. Et en fait, je faisais tous les tops. Donc j'avais à ma droite la console lumière, à ma gauche la console son, et j'étais toute seule pour tout faire pendant le spectacle. Et tous les jours, j'avais des nouveaux spectacles. Et tous les jours, c'était nouveau, une nouvelle conduite, un nouvel artiste, un nouvel humoriste, une nouvelle pièce. Et comme ça, je passais de spectacle en spectacle. Et en fait, sur un mois, je crois que j'avais compté, sur un mois, je devais recevoir une fois un régisseur. Donc super rare. Quand tu joues quasiment tous les jours. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait menti, en fait, parce qu'en fait, c'était pas du tout exceptionnel que je sois derrière la console, et finalement, je faisais pas de la régie générale. Enfin, un peu, mais c'était surtout de l'accueil de spectacle, et j'étais régisseuse lumière et son, quoi. Ça a été assez compliqué, j'étais hyper stressée les premiers mois, parce que c'était pas mon boulot, en fait. J'étais en train de tout découvrir. Et voilà, je me rappelle à des spectacles, avoir terminé le spectacle et même pas avoir le temps de souffler et de me dire « ça y est, j'ai réussi ». Non, j'étais déjà en train de me dire « oh, et demain, il y a l'autre spectacle ». Alors des fois, voilà, j'avais des petits moments de répit quand c'était du stand-up, parce que si tu as déjà vu des artistes de stand-up, il n'y a pas de changement de lumière, il n'y a souvent pas beaucoup de top son. En fait, c'est vraiment des humoristes qui parlent au public pendant une heure. Et qui font leurs sketchs comme ça, les uns à la suite des autres. Et par contre, il y a des humoristes qui, vraiment, ont beaucoup de top sons, qui font des noirs à la fin des blagues. Et voilà, et j'avais vraiment des spectacles qui étaient hyper chiadés et où c'était hyper difficile de suivre. Et j'avais une vieille console lumière, donc je faisais tout à la main. Donc chaque fader, c'était un tableau. Alors que j'aurais pu la programmer ou j'aurais eu juste à appuyer sur un bouton pour passer d'un tableau à un autre. Mais ça, je n'arrivais pas à le faire. J'avais tous mes faders qui... Voilà, un fader, c'était le tableau 1. Le fader, le deuxième, c'était le tableau avec la lumière bleue, etc., etc. Plus en même temps, la main gauche, j'avais le son. Donc j'ai fait des boulettes, mais aussi, assez rapidement, j'étais assez douée pour ça. Et en fait, il y a un moment où j'ai pris confiance, où je connaissais mon lieu, je connaissais mes consoles. Les demandes des artistes, elles pouvaient être assez souvent les mêmes parce que mon lieu, il était tout petit et j'avais pas beaucoup de matériel. Donc en fait, quand on me demande de faire un tableau où il faut que ce soit rouge, ça allait assez rapidement. Je créais très vite les atmosphères et en fait, j'arrivais super bien à faire tous les tops. Et j'étais super fière de ça parce que souvent, les artistes étaient hyper contents de moi, hyper rassurés. on m'a fait mais des retours magnifiques. Il y avait vraiment plein d'artistes qui me disaient « Mais Camille, merci, grâce à toi, quand je monte sur scène, je pense pas du tout à la technique, je suis vraiment dans le spectacle. » Parce que voilà, c'est ça aussi la contrainte pour ces artistes-là. Ils arrivent à 15h, ils font de la technique. C'est ça qu'on n'imagine pas peut-être. C'est que l'humoriste, il arrive, il est tout seul, s'il n'a pas de régisseur par exemple. Et en fait, il fait tous les tableaux lumière avec toi. Il refait soit tout le spectacle, soit tous les tops. On revoit tous les tops. Et en fait, assez rapidement, les artistes, ils se sentaient à l'aise. Ils sentaient que j'avais la bonne fibre, en fait, que j'allais assurer, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période où vraiment, mais je ne faisais aucune erreur. Et même des spectacles où c'était hyper difficile. Et voilà, et puis c'était aussi des moments où j'assistais au spectacle aussi. Vu que j'étais en console, j'ai vu des spectacles qui étaient super, alors j'en ai vu des moins bien aussi. Mais voilà, ça m'a permis de voir beaucoup d'artistes, parce que la cadence était telle que j'avais fait un tableau, il me semble que en 9 mois, j'avais dû faire 200 spectacles, je crois, différents. Mais là, en le disant, ça me semble énorme, faudrait que je retrouve le tableau. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu énormément de gens. Et en fait, j'étais dans une spirale infernale. Et je ne me sentais pas bien avec les gens du théâtre. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Leur façon de travailler, leur façon de voir mon métier, leur façon de voir le spectacle. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je connaissais entre un théâtre subventionné et un théâtre privé où c'est ton argent, où tu dois faire rentrer de l'argent. Enfin, c'était vraiment des systèmes où moi, je me sentais pas bien. Enfin, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Le théâtre commençait sérieusement à me manquer. Le temps commençait sérieusement à me manquer parce que, en fait, j'ai signé ce CDI, mais comme je disais, je m'attendais vraiment pas à faire ça. Donc moi, j'avais d'autres plans à côté. J'étais rentrée dans une autre compagnie. Je voulais faire d'autres projets à côté. En me disant, bah voilà, avec l'intermittence, j'aurai le temps de faire plusieurs choses à la fois. Et en fait, bah non, en signant ce CDI, je n'avais plus ce temps. Et j'étais vraiment dans une spirale où tous les jours, il y avait un spectacle à 20h. Et en fait, j'étais dans une boucle infinie. Et je ne me suis pas du tout sentie à l'aise avec ça. Et le jour où j'ai décidé de partir, mais je me suis sentie mais tellement mieux. Déjà, ça se passait beaucoup mieux avec les personnes du théâtre. Parce que en fait, il y avait tout un truc où je savais que ça avait une fin. Et je crois vraiment que j'avais besoin de ça. Et je me suis dit, non mais vraiment, en fait, l'intermittence, c'est ce qu'il me faut. Je ne peux pas être en CDI dans cette boucle infinie où il n'y a jamais de fin. Et la cadence, elle était démentielle en fait, un spectacle par soir. Et puis au fur et à mesure, il y avait même deux spectacles par soir. Il y avait des vacances scolaires où je jouais le matin et aussi le soir. Et en fait, en termes de vie personnelle, j'en avais plus. J'avais plus de vie. C'est comme si j'étais redevenue célibataire. Mon mec, je le voyais jamais parce que lui, il travaillait la semaine. Moi, je travaillais du mercredi au dimanche, donc le samedi et le dimanche, il était seul. Et voilà, la vie perso, bah non, ça allait pas, ça me convenait pas. Moi, je voulais du temps de vie. Alors si, j'avais quand même réussi à négocier un week-end par mois, parce que, comme je disais, bah, ma famille, il faut que je fasse 3 heures, plus de 3 heures de route pour les voir. Donc en fait, à un moment, je leur ai dit, mais en fait, là, votre histoire de où je dois travailler tous les week-ends, quand est-ce que je peux voir ma famille? Jamais, quoi. Je veux au moins un week-end par mois, ça avait été accepté. Donc ça me faisait quand même du bien, mais une fois de plus, j'étais en train de courir partout, tout le temps, quoi. Et le matin aussi, pendant longtemps, j'ai dormi, sauf qu'au bout d'un moment, bah, je me disais, mais en fait, le matin, je dors, je mange, je vais au travail, le soir, je rentre, je dors, et le matin, je me relève, je mange, je vais au travail, et en fait, je n'ai plus de vie. Et ça a commencé à m'atteindre vraiment profondément. Je pense que j'ai commencé une déprime, pas une dépression, mais vraiment à être déprimée assez sérieusement, parce que pour toutes ces choses, en fait, le fait de pas se sentir bien, de sentir qu'on n'est pas avec les bonnes personnes, de sentir que t'as plus de vie, de plus avoir de vie personnelle, alors que pour moi c'est quelque chose de très important, et d'être dans cette boucle infinie où ça ne s'arrête jamais, voilà, moi, il fallait vraiment que ça cesse. Donc il y a un moment où j'ai pété un plomb et où je leur ai dit je m'en vais. En fait, il y a un moment où ça allait être mon anniversaire et j'ai eu comme une bouffée de de stress où je me suis dit, je ne veux plus, le jour de mon anniversaire, je ne veux plus être dans ce théâtre. Bon, on a rediscuté, je suis revenue un peu sur mes pas, donc eux, ils n'ont pas compris, ils ont été hyper méfiants, voilà, parce que ça se passait pas bien, voilà, ça se passait pas bien avec ces gens-là, donc ils étaient hyper méfiants avec moi, ils ont cru que je voulais les manipuler, ah oui, il y avait une histoire d'argent, parce qu'en fait, si mon contrat, il durait 2 mois de plus, ils allaient me devoir de l'argent, donc ils pensaient que je faisais ça pour ça. Enfin bref, c'était n'importe quoi, alors que pas du tout. Et donc en fait, moi je suis revenue sur mes pas, je leur ai dit, bon, je vais pas partir si vite, je termine la saison. Parce que j'avais aussi besoin de boucler la boucle, voilà, j'avais commencé avec eux. Je leur ai dit, le temps qu'on fasse les entretiens pour qu'ils embauchent quelqu'un après moi, je leur ai dit, bon d'accord, je reste jusqu'à temps qu'on trouve la personne et que je forme cette personne. Parce qu'ils voulaient que ce soit moi qui forme la personne, qui reprendrait mon poste. Et donc je leur ai dit, ok, je reste jusqu'en juillet, je forme une personne. À partir du moment où j'avais pété un plomb, on avait directement fait des entretiens et la personne que moi je trouvais la mieux, elle n'aurait été prête à être embauchée que à la saison suivante. Donc c'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, bon, en fait, ils m'ont laissé choisir la personne qui allait venir après moi. C'était un peu fou aussi, ça. C'est... Alors qu'en plus, on s'entendait pas. Enfin, j'aurais pu choisir la pire personne. J'ai grave pris le truc sérieusement. Je leur ai dit, bah oui, je vais vous choisir une bonne personne parce que je voulais pas non plus abandonner le lieu. Leur projet, moi, je le trouvais génial. Enfin, donner accès aussi à du théâtre privé dans la région, je trouvais ça super, quoi. Enfin, c'est pas le même type de spectacle en allant voir du théâtre privé qu'en allant voir du théâtre subventionné qui peut être du théâtre élitiste. Là, vraiment, on était sur du théâtre de boulevard, des comédies. Voilà, j'ai déjà dit, il y avait des spectacles qui étaient vraiment pas bien, mais il y en avait aussi des super, mais vraiment des... J'ai rencontré des gens géniaux et j'ai vu des spectacles super. Donc leur projet de théâtre, moi je le trouvais très bien. Et en fait, j'ai pas voulu quitter comme ça, en claquant la porte, le lieu. Et donc j'ai été jusqu'en juillet pour former la personne, etc. C'est une étape qui s'est terminée. J'étais très heureuse, tellement soulagée de quitter ce poste. Et pour le coup, là, j'ai vraiment pris à bras le corps le problème de l'intermittence. J'ai été chercher le travail. J'ai été distribuer mes CV avec toute la conviction que j'avais et aussi toute l'expérience que j'avais emmagasinée parce que dans ce théâtre, peut-être que j'ai pas fait de régie plateau et que je me suis éloignée de ce pourquoi j'avais suivi mes études, mais par contre, en termes de confiance en moi, j'en ai pris un sacré shot parce qu'en fait, j'avais pas le choix. Vu que j'étais responsable des spectacles, il fallait que ça marche, hein. Le fait de me retrouver à quasiment tous les jours faire des régies de spectacles que je ne connaissais pas, ça me mettait au pied du mur, il fallait que ça fonctionne et je n'avais pas le choix de prendre confiance en moi en fait. Je ne pouvais plus me cacher derrière « non, je sais pas bien faire, je suis pas assez bien ». Non, là, le spectacle, il est 16h, on est en train de répéter, à 20h le spectacle il joue et il faut que ce soit parfait et que je me trompe le moins possible. L'artiste, il compte sur moi. J'ai pris vraiment beaucoup confiance en moi. Et cette expérience, alors elle n'est pas que mauvaise, il y a du bon et du moins bon dans cette expérience, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte de tout ce que je ne veux pas. Ça m'a permis de me rendre compte que quand ça va pas, faut que j'arrête. Quand le feeling ne passe pas, eh ben, faut pas forcer les choses. C'est que je ne suis pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Eh ben, c'est pas grave. Je vais voir ailleurs. Ma place, elle est ailleurs. Vraiment, c'est une expérience où j'ai pas forcément appris techniquement. J'ai même eu la sensation de reculer en fait, puisque j'ai pas pratiqué pendant un an la machinerie et tout ça. Mais en termes de confiance, je suis partie mais reboostée. Et je n'avais plus aucune peur d'aller vendre mon CV, d'aller me vendre auprès des régisseurs, de toquer à la porte des théâtres. Et vraiment, j'ai fait ça et j'ai eu énormément de réponses positives. Et en fait, très vite, j'ai été embauchée dans 3, 4, 5 lieux différents et j'ai pu faire mon intermittence assez facilement. Alors j'ai eu d'autres mauvaises rencontres entre deux, je sais pas si je vais épiloguer là-dessus. Ouais, est-ce que c'est intéressant? Donc en fait, en faisant la régie des spectacles, j'ai rencontré des personnes qui ont su que j'allais quitter mon CDI et qui m'ont dit, bah écoute, moi j'aimerais partir en tournée avec toi, j'aimerais que tu fasses telle date dans telle ville, parce que j'ai besoin que mon régisseur y soit remplacé. Les spectacles, je les connaissais, les conduites, je les connaissais, les artistes, ils avaient confiance en moi, et moi j'ai dit, bah ouais, carrément, vas-y, je fais la tournée avec toi. Et en fait, pour la tournée que j'ai acceptée, c'est arrivé que je fasse une mauvaise rencontre, en fait. Et ça m'a un peu déprimée, parce que j'ai eu l'impression d'enchaîner les mauvaises rencontres, et ça m'a désillusionnée. Par rapport à ce milieu, je me suis dit, mais attends, est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où tu te professionnalises, c'est que des mauvaises rencontres? J'ai eu un peu peur de ça. Et en fait, voilà, je suis partie en tournée, ça se passait plutôt bien, sauf qu'en fait, la tournée, il n'y avait vraiment pas beaucoup de dates, et j'étais obligée d'être là sur ces dates-là, évidemment. Sauf que j'avais tous mes autres employeurs qui voulaient m'embaucher sur des contrats de 70 heures, 120 heures, 18 heures. Parfois, dans ces contrats-là, il y avait pile une journée où je devais être en tournée. Donc, je voyais s'envoler ces contrats. On me disait, ah bah non, désolé, si t'es pas là tel jour, bah on va devoir embaucher quelqu'un d'autre. Donc, en fait, j'avais 70 heures qui s'envolaient, 100 heures qui s'envolaient. Et pour une journée de tournée où t'es payé, je sais plus, j'étais payé 10 heures ou 12 heures, je sais plus. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, bah écoute, je suis désolée, je vais devoir quitter la tournée parce que là, je n'ai pas encore mon statut. Donc quand la première année, quand tu n'as pas encore ton statut, tu vis sans les indemnités de Pôle emploi. Et donc, tu ne vis que de tes cachets intermittents. Et moi, bah, mes cachets intermittents, c'était genre 500 euros par mois. Donc tu vis très mal avec 500 euros par mois. Donc tu as envie que ça aille le plus vite possible, de faire tes 507 heures les plus vite possible. Et bah là, moi, en fait, on me freinait, ça me freinait cette tournée. Et donc j'ai dit, bah désolé, je vais quitter la tournée. Par contre, si vous voulez, je peux vous proposer quelqu'un d'autre. La production m'a dit, bah oui, si t'as quelqu'un d'autre à nous proposer, vas-y. Donc moi, j'ai quelqu'un qui m'a remplacée et qui a continué cette tournée. Donc voilà, une fois de plus, je suis pas partie en claquant la porte. Je suis partie en disant, bon bah voilà, désolé, je dois partir, je dois quitter ce projet de tournée. Par contre, voici mon collègue qui est génial, ça va très bien se passer avec lui, et ça s'est très bien passé avec lui, mais par contre, en faisant ce choix, voilà, ça s'est mal passé avec une personne qui a vraiment été horrible. Enfin, ça sert à rien de rentrer dans les détails. Et du coup, en voyant le vrai visage de cette personne, j'étais mais tellement contente de finalement quitter cette tournée. Et donc après, c'est là que j'ai pu vraiment faire mon intermittence le plus vite possible. Donc je crois que la première année, j'ai eu mon intermittence en 7 mois, et je pense que sans la tournée, en 5 mois, j'aurais eu mes 507 heures. Donc voilà, j'ai perdu un peu de temps, j'ai un peu perdu d'argent, mais voilà, j'ai fini par avoir mon statut. Et donc ça, c'était fin 2018. Depuis, je suis intermittente. J'ai toujours eu mon statut, je ne l'ai jamais perdu. Depuis 2018, je travaille en étant ma propre patronne, on peut dire, parce que on n'est pas intérimaire, on n'est pas inscrit sur des listes ou quoi. Je trouve du travail au gré de mes rencontres, du feeling. Voilà, il y a beaucoup d'humains qui passent dans la technique. Et puis quand t'as des moments de creux ou quand tu sens que t'es moins employé par un lieu, voilà, cette année je sais qu'il y a des lieux qui vont moins m'employer, donc je sais pas si je vais... On verra comment ça se passe, mais je sais pas si je vais devoir redistribuer mon CV ou rappeler des lieux. Voilà, il y a des lieux dans lesquels j'ai travaillé une ou deux fois parce que c'est trop loin ou trop compliqué ou parce qu'ils avaient besoin de moi ponctuellement, mais que d'habitude ils ont une équipe voilà, assez conséquente. Peut-être que je vais devoir rappeler un peu ces lieux-là pour reproposer mes services ou pas, on verra bien comment ça se passe. Et je suis assez contente de ce train de vie. Je pense que c'est celui qui me convient le mieux, parce que à la fois je peux avoir des projets à côté, J'ai des moments où je travaille énormément et d'autres où je peux avoir des périodes de creux. C'est pour ça qu'on est intermittent, c'est parce que c'est précaire. Ça m'a permis de faire les travaux dans ma maison, par exemple. Ça fait 5 ans qu'on fait des travaux, qu'on rénove entièrement notre maison avec mon conjoint. L'intermittence, ça m'a permis de beaucoup faire de travaux, d'avoir du temps pour avancer sur ce type de projet. Et dernièrement, bah, ce podcast, tout simplement. Ce que j'aime particulièrement dans mon parcours, c'est qu'en fait, j'ai pu explorer un peu tous les postes et toutes les manières de voir et les contraintes qu'on a selon là où on est placé en fait dans le processus de création et dans le processus de montage d'un décor. Parce que par exemple, j'ai été permanente à l'opéra, donc j'ai vu ce que ça faisait d'être dans l'équipe des permanents. Je suis à la fois partie en tournée, donc je sais aussi ce que c'est qu'être régisseuse et d'être accueillie dans un lieu. Et en fait, bah, quand tu es accueillie, toi, tu vas tout faire pour défendre tes intérêts pour ton spectacle. Et j'ai aussi vu ce que ça faisait que d'être régisseur dans un lieu. Et là, c'est toi qui as les contraintes de ta salle, tu connais ta salle, tu connais les réglementations, parce que d'une salle à une autre, ça peut changer. Voilà, chacun va dealer selon ses intérêts par rapport aux demandes et à ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Parce que des fois, on nous demande des choses qui vont être acceptées dans des lieux et qui ne vont pas l'être dans l'autre. Il peut y avoir des petites subtilités comme ça. Et en fait, ça me permet de mieux comprendre les intérêts de chacun. Et j'ai pu aussi monter sur scène et jouer dans certains spectacles. J'ai aussi exploré ce que c'était que d'être sur le devant de la scène, parce que nous, on est à la technique et on est caché. Donc on fait aussi partie intégrante du processus, hein. C'est sûr que sans la technique, le spectacle ne joue pas, sans les artistes, le spectacle ne joue pas, sans toute l'équipe administrative, la communication, etc., ça ne joue pas. En fait, on est tous reliés dans la chaîne et s'il manque un maillon, ça ne fonctionne pas. Mais quand même, quand on est artiste, c'est toi qui te montres, c'est toi qui te mets en danger, et c'est quand même encore autre chose que de faire un spectacle en étant artiste qu'en étant machiniste, par exemple. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais dire aussi, quand on voit un artiste sur scène, on a l'impression qu'il donne tout, qu'il est dans une émotion pure, qu'il est à fond dans son rôle, et effectivement, il y a des moments qui sont magiques comme ça. Mais en fait, quand tu es artiste, il y a aussi énormément de choses autour dont il faut que tu prennes en compte. Par exemple, un décor sur plusieurs niveaux, ou les rues, comment elles sont installées, la draperie, les endroits où tu peux être à vue, les endroits où tu ne l'es pas, les entrées, les sorties, les notes que le metteur en scène il te donne, les intentions de jeu. C'est vraiment énormément de choses à prendre en compte quand tu es artiste. À la technique, quand on a des décors un peu compliqués, on fait le tour du plateau avec les artistes, on leur dit bah écoute là, regarde, ici il y a un trou, ici faut pas que tu tombes, ici il y a des marches, ici faut pas que tu passes à ce moment-là parce que nous on va être en train de manipuler le décor. L'artiste il emmagasine énormément d'informations aussi techniques. Il n'y a pas que le jeu ou son personnage, rentrer dans la peau du personnage. Et ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte. Il faut aussi qu'il gère ses accessoires. Des fois, il y a le rideau, il tombe. Faut qu'il court, faut qu'il se dépêche, faut qu'il sorte de scène, faut qu'il aille s'habiller, il faut qu'il change de costume. Un spectacle, c'est des marathons. On n'est pas que dans la pose du personnage. Et il y a énormément de choses à penser. Et j'aime bien pouvoir avoir cette vision aussi du métier, les contraintes que tu as quand tu es sur scène. Parce que des fois, moi, ce que je trouve, c'est que ça reste quand même un milieu assez sectaire. Les machinistes vont rester entre machinistes, les artistes vont rester entre artistes, et même parfois, sur des gros spectacles, t'as les danseurs qui vont plutôt rester entre danseurs. Et ça, je pense que c'est un peu partout, dans tous les métiers, où en fait on reste dans les groupes avec qui on connaît, avec qui on travaille. Le truc de c'est une grande famille, le spectacle et tout... je suis pas forcément d'accord avec ça, ça se passe pas toujours comme ça. Il y a des moments où oui, effectivement, c'est un peu magique, il y a un feeling, tout se passe bien, tout le monde s'entend bien, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des artistes, mais ils ne nous considèrent pas du tout, parce qu'on est les pauvres techniciens exécutants. Ou alors ça va plutôt être l'équipe artistique, la mise en scène, où vraiment, on nous dit même pas bonjour. parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas lu les mêmes livres. Voilà, il y a des machinistes, c'est vraiment des gens manuels, des bricoleurs, des ouvriers. Voilà. Enfin, j'avais beaucoup aimé quand j'avais lu que le premier nom des machinistes, c'était les ouvriers de la Seine. Bah, c'est ça, on est des ouvriers, on est donc en bas de l'échelle. Plus tu montes dans la hiérarchie, voilà, les artistes, les chefs d'orchestre, les musiciens, on n'est plus sur le même niveau. Et des fois, bah voilà, on sent très bien qu'on n'est pas au même niveau les uns les autres. Mais par contre, ça se passe pas toujours comme ça. Et évidemment qu'il y a des metteurs en scène géniaux et qui prennent en compte la technique, qui comprennent nos contraintes, qui connaissent notre métier. Mais t'en as aussi qui sont que dans l'artistique et qui demandent des trucs de fou que tu peux pas réaliser. Et toi, il faut que t'ailles expliquer au metteur en scène que sa demande, elle est pas réalisable, ou alors qu'il va nous falloir 2 jours pour faire son truc. Des fois, ça crée des situations où on n'ose pas dire non au metteur en scène, donc... ou aux équipes, et du coup, eh ben, on essaye de bricoler un truc. Et souvent, on nous laisse jamais le temps. Enfin, moi, je pense là surtout aux gros spectacles auxquels j'ai participé, pas quand c'est des petites compagnies et tout, parce qu'une petite compagnie, on est tous un peu techniciens, artistes, voilà, chacun met la main à la pâte. Mais vraiment dans les gros spectacles où chacun a son rôle, eh ben, voilà, des fois, la technique, on nous laisse pas le temps, ou alors on nous dit ah bah ça il faut le réparer vite, il faut faire ça, il faut faire ci, donc on leur dit bah oui mais là il me faut 10 minutes, il me faut un quart d'heure, et en fait très vite on s'énerve contre nous parce qu'il nous faut du temps, parce que alors que eux ça leur semble facile, ça leur semble rapide, ça leur semble machin. Donc ça c'est des choses qui sont un peu chiantes et je suis en train de le vivre en ce moment, c'est peut-être aussi pour ça que je le dis, mais voilà, je travaille pas essentiellement sur des gros spectacles. Il y a des ambiances qui sont un peu reloues et où vraiment en tant que machiniste je me sens pas reconnue, ou vraiment oui je sens que je suis en bas de l'échelle quoi, enfin, et que on nous laisse pas le temps de faire, ou alors on nous prend pour des feignants, enfin ça c'est un peu chiant. Mais voilà, il y a des exceptions, et si je disais que ça pouvait être très sectaire, et ça, pareil, il y a des exceptions, il y a des lieux où je travaille, où tout le monde se mélange, que ce soit les gens du bureau, de la com, la direction, la technique, il y a des lieux où c'est très familial, où tout le monde se parle, tout le monde mange ensemble, c'est, voilà, c'est un peu la fête et tout ça, donc là, c'est un peu ce qu'on imagine, je pense, du monde du théâtre, la grande famille, etc. Mais franchement, pour être honnête avec vous, ce n'est pas comme ça que ça se passe généralement, quoi. Alors oui, on peut bien s'entendre, on peut se parler et tout ça, mais souvent la technique, c'est avec la technique, et on est mal compris des autres services, et nous-mêmes on comprend mal les autres services, parce que voilà, le truc de chacun défend son intérêt, chacun défend son truc, et ça c'est un truc qui me pèse peut-être de plus en plus avec les années, le truc de passer pour des feignants. Et ça, c'est un truc qu'il faut savoir dans le métier de la technique, c'est aussi qu'on a énormément de temps d'attente. Alors ça, tout le monde n'est pas capable de bien le vivre, parce qu'il y a des gens, faut que ça bouge, faut que ça avance, ils peuvent pas rester en place, et du coup, ça peut être des moments qui sont durs, ouais, voilà, qui sont durs à vivre. Moi, ça va, je vis ça bien. Je sais m'occuper, ou je suis en capacité de pouvoir attendre pendant des heures. Mais en fait, à la technique, des fois on attend, et on sait pas combien de temps ça va durer. Donc on attend, ça peut durer 2 heures, et par contre, d'un coup, ah bah là, il faut que le décor on change. Allez, on va faire cette scène-là, donc il faut faire telle manipulation. Et en fait, tu as pu attendre 2 heures, et d'un coup, en 5 minutes, il faut que tu t'actives, et il faut que tu fasses le truc. C'est un peu des mouvements comme ça de rythme qui peuvent être un peu déstabilisants. Il faut s'adapter très vite et il faut faire les choses. Et parfois, bah, t'en as un qui s'est dispersé, qui est allé bricoler quelque chose et tout ça. Et en fait, très vite, et ben, faut vite qu'on se regroupe tous et qu'on fasse la manipulation. Et des fois, ça prend du temps et ça énerve. Et voilà, l'artistique, il comprend pas pourquoi on prend autant de temps. Et ouais, c'est des situations qui sont un peu chiantes, moi, je trouve. Je sais qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui vont voir beaucoup de comédies musicales, parce que moi aussi c'est ma passion, voilà, au-delà du travail que je fais, c'est aussi une passion, le spectacle. Donc ça c'est aussi un truc aussi, de rentrer dans un métier où c'est ta passion. Tu changes aussi assez vite la vision de ce que t'avais de ce milieu-là. Par exemple, ce n'est pas du tout un rêve pour moi de travailler sur des comédies musicales. Parce qu'en tout cas, dans tous les spectacles, où plus c'était gros, où plus on était nombreux sur scène et sur des projets, moins c'est humain, plus c'est de la pression, plus c'est sectorisé, comme je disais, où voilà, chacun son rôle, chacun sa place, et voilà, ça se mélange pas, etc. Ou alors on se comprend pas. Et donc moi, non, je préfère clairement travailler dans des théâtres voilà, de taille moyenne, où il y a des moyennes équipes, et où ça se passe bien, et où les théâtres, ils accueillent bien les compagnies. Les compagnies, elles connaissent par cœur leur spectacle, tout roule. Voilà, là, peut-être que dans tout ce que j'ai exposé dans l'épisode, j'ai dû parler des contraintes, des problématiques qu'on peut rencontrer, mais il y a aussi des théâtres où tout se déroule bien, parce qu'il a été programmé dans une salle où ça rentre parfaitement sur le plateau. Alors ça aussi, c'est un des problèmes qu'on peut avoir. C'est les programmateurs qui programment des théâtres parce qu'il y a le copain qui a fait un spectacle et en fait, le spectacle ne rentre pas dans notre théâtre. Et ça, bah, c'est des contraintes techniques qui peuvent être parfois assez lourdes et où on rentre le spectacle au chausse-pied. Et bon voilà, des fois on y arrive, des fois bah, on doit annuler. Bon, ça c'est très rare, une annulation du spectacle. Mais des fois, ça ne rentre pas, quoi. Et du coup, bah, c'est à l'équipe qu'on accueille qui doit faire des choix sur enlever certains éléments, ne pas faire ça, ou alors on va pas avoir le temps de monter ça, ou le plateau, il peut pas porter une charge aussi énorme. C'est des contraintes, en fait. Le métier de la technique, c'est que des contraintes et des solutions à trouver. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je voulais dire pour quelqu'un qui voudrait travailler dans la technique, c'est que il faut être organisé. Tu vas recevoir énormément de planning. Il va falloir que tu répondes, que tu fasses des choix rapides. Pareil pour les coups de téléphone. En sachant que les premières années, moi, je les ai vécues assez en stress, en fait, parce que t'as peur, même si t'as du boulot, t'as peur de pas réussir à faire ton statut, parce que voilà, ça, t'as pas une vision globale sur ton année, en fait, parce que le travail, on t'embauche au fur et à mesure du temps, et des fois t'as des périodes de creux, surtout les premières années, quand t'as pas encore beaucoup d'employeurs, ou alors qu'on t'appelle pas beaucoup, parce que t'as pas encore fait beaucoup d'épreuves, et ben tu galères, quoi, enfin, et t'as peur, tu te dis, mais oh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à faire mes heures? Et donc t'es dans un stress un peu comme ça, perpétuel. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. Je pense que je peux avoir quelques moments de petite panique ou de stress, mais globalement, je vis ma vie sereinement. Il y a des choix qui, des fois, sont difficiles. Alors ça, c'est des trucs qui me sont arrivés. C'est un truc de fou. Tu peux, par exemple, à un moment, avoir une période de creux, donc tu n'attends que ça, qu'on t'appelle enfin pour te redonner du boulot. Et ça m'est arrivé que je reçoive un planning pour 4 heures, donc vraiment le truc pas fou, ou être au téléphone, et au même moment où je suis au téléphone avec un régisseur, je reçois un mail, donc je n'ai pas le temps de le lire, qui me propose du boulot pour la même journée. Et ça, ça m'est arrivé, je crois que là, ça m'est déjà arrivé, 3 employeurs me proposent du boulot pour la même journée, et vraiment que cette journée-là, hein, pas la veille, pas le lendemain. Et en fait, ça peut arriver que tu aies dit oui, parce que le premier employeur qui t'a appelé, il t'a proposé un contrat de 4 heures, et l'heure d'après, tu reçois un planning où en fait, on voulait te mettre sur une exploitation, et où en fait, t'as 50 heures de travail. Et ben là, t'as accepté tes 4 heures, et en fait, ben, c'est des choix à faire. Donc quand c'est les premières années, et que tu galères, ou vraiment que ça vaut pas le coup, malgré le fait que tu te sois engagé, t'aies validé un planning, le planning, en fait, ce n'est pas un contrat. Le contrat, tu le signes le jour où tu arrives sur le plateau. Donc en fait, tu peux toujours appeler le régisseur si tu t'entends bien avec lui, si ça passe, si tu sens que ça peut passer, de dire, bah écoute, excuse-moi, tel jour tu m'as proposé 4 heures, mais j'ai un autre employeur qui me propose 50 heures et j'ai besoin d'annuler la journée avec toi, je suis désolée. Donc ce qui est bien, c'est soit de dire, bon, très à l'avance, le plus à l'avance possible, et donc d'être hyper réactif pour que lui, ton employeur pour qui tu annules le travail, il puisse retomber sur ses pattes et trouver quelqu'un d'autre, et voilà, téléphoner, etc. Et toi-même, tu peux te dire, bah écoute, j'ai entendu que telle personne, elle avait pas trop de boulot en ce moment, donc là, elle va sûrement être libre, et faire en sorte comme ça. Alors, il y a des employeurs qui refusent catégoriquement. Voilà, ça m'est arrivé qu'on me dise, écoute, si tu acceptes mon planning, il n'est pas question que tu reviennes sur ton choix. Ok. Et il y a des régisseurs qui sont hyper cool et qui sont là, mais oui, pas de souci, t'as bien raison. Parce que voilà, il y a des régisseurs aussi qui ont été permanents toute leur vie. Il y en a qui ont été intermittents, qui savent ce que c'est, qui comprennent tes problématiques. Donc voilà, ça c'est des choix. Plus ça va, moins ça m'arrive. Si on m'a proposé un petit contrat et que je passe à côté d'un meilleur contrat, bah des fois, bah c'est pas grave, c'est la personne qui a été la plus organisée et qui a le plus anticipé et à qui j'ai dit oui en premier, bah avec qui je vais travailler, et puis tant pis, les heures que je perds, je les gagnerai à un autre moment, je les aurai autrement. Et j'évite de me mettre dans des états de stress de « Oh non, j'aurais pas dû dire oui, j'aurais pas dû répondre si vite, j'aurais dû attendre, machin, non, non, c'est bon. » Maintenant, voilà, c'est que très rarement que je demande à annuler ma présence. Et vraiment, si je le fais, c'est parce que ça vaut vraiment le coup et que je loupe un gros projet, quoi. Donc voilà, pour moi, être technicien, c'est aussi de l'organisation. Parce que, par exemple, si je travaille dans 5 lieux différents, dans le mois, je peux avoir 5 plannings différents. Et donc là, t'as intérêt à être hyper organisé, à noter quels horaires tu fais et quels jours, et à ne pas te tromper, quoi. Moi, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé de me tromper, d'avoir mal lu un planning et de pas aller au démontage. Ou alors d'avoir mal lu et de penser commencer à 14h alors qu'en fait je commençais à 12h, de recevoir un coup de téléphone, bah Camille on t'attend, qu'est-ce qui t'arrive, t'as un problème? Bah non, en fait je suis juste chez moi, j'ai mal lu le planning. Et... Mais voilà, souvent quand il se passe ça, c'est qu'il y a eu plein de planning, qu'il y a eu beaucoup de changements et que je me suis un peu perdue. Et voilà, faut être hyper organisée et... arriver à l'heure, la ponctualité c'est quelque chose qui est hyper importante aussi. Il y a des gens qui arrivent tous les jours en retard, bah voilà, les régisseurs ils s'en rendent bien compte aussi, ils sont pas dupes. Je voulais aussi parler du fait d'être une femme dans ce milieu-là. En tant que femme, tu seras entourée de beaucoup d'hommes. Moi vraiment la technique c'est un milieu très masculin, même s'il y a de plus en plus de filles, voilà, moi, notamment, pendant mes formations, il y avait des filles, en régie plateau, il y a de plus en plus de filles, mais voilà, en tout cas, moi, être dans un milieu masculin et travailler avec essentiellement des hommes, ça ne me dérange pas du tout, j'aime bien, moi, en fait. Je pense que c'est en moi depuis toujours, j'ai toujours eu beaucoup de copains garçons, etc., et j'aime être en contact de mecs, donc il n'y a pas de souci avec ça, moi ça me va très bien. Mais ce que je voulais quand même dire, c'est que je ne connais pas, moi, dans mon expérience, de régisseuse permanente. Dans les théâtres dans lesquels je travaille, j'en vois pas. Il n'y a pas de régisseuse femme, en tout cas en technique plateau, lumière, son. Alors si je connais régisseuse d'orchestre, je connais des régisseuses de compagnie, des régisseuses intermittentes, mais vraiment en permanent, j'en connais pas. Je connais pas de femmes, je connais pas de femmes directrices techniques. J'en ai vu une fois, qui a été directrice technique d'un gros lieu et qui a été très vite remerciée. Donc voilà, c'est juste un constat que je voulais faire, mais dans les postes à responsabilité, je vois très peu de femmes. Par contre, un métier que j'adore, ce sont les régisseuses et régisseurs de scène, les topeurs. Et là, il y a beaucoup de femmes. Mais ce n'est pas vraiment un métier technique, c'est un métier qui fait tampon entre la technique et l'artistique. Et pour le coup, c'est vraiment un métier où il faut être très organisé, très méticuleux. Et pour le coup, là, il y a beaucoup de femmes. J'aimerais beaucoup recevoir une topeuse, une régisseuse de scène dans le podcast pour parler de ce métier que je trouve vraiment passionnant. J'ai la sensation d'avoir dit beaucoup de choses. Si jamais il y a des thèmes que j'aurais pas abordés ou des choses que j'aurais pas dites ou des questions, tu peux toujours me contacter et me dire bah j'aurais aimé que tu parles de ça. Et voilà, peut-être que je pourrais refaire un autre épisode qui en parle plus tard. Si je me rends compte qu'il y a vraiment des sujets qui intéressent particulièrement, qui interpellent, ou on voudrait que j'aille plus profondément, pourquoi pas. Mais je pense que j'ai déjà fait un grand tour sur le métier de technicien, nos contraintes, voilà. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un métier physique, où on n'a pas de rythme, où on n'a pas de rythme, en fait. Ça, c'est vraiment le truc de ma vie, quoi. Enfin, c'est que je n'ai jamais le même rythme. Et c'est pas quelque chose de mal. Enfin, moi, c'est ce que je voulais aussi même si au départ de ma vie professionnelle, je pensais que j'avais besoin d'un cadre. Alors en ce moment, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'aurais pas besoin d'un cadre? Mais c'est plus en termes de fatigue, parce que depuis que je travaille, je suis continuellement dans un état d'épuisement, je me sens rarement reposée. Alors je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir de rythme comme ça, de parfois finir à 23h, reprendre à 9h le lendemain. Là en ce moment je finis tous les soirs à 23h, je suis décalquée, je sais pas. Ça fait longtemps que je me demande si est-ce que c'est ça la vie d'être tout le temps fatiguée, ou est-ce que je me sentirais mieux et plus en forme si j'avais des horaires plus classiques. Et en même temps voilà, si c'est ce qui me plaît dans mon métier, même si ça m'est arrivé, et si ça m'arrive encore, de me poser des questions existentielles en fait. Est-ce que je suis vraiment épanouie? Est-ce que c'est fait pour moi? Des fois je me sens nulle, des fois je me sens plus à ma place. Notamment le podcast, ça m'a reboostée dans mon métier, parce que c'était une période où je me posais énormément de questions, où j'avais l'impression qu'il fallait que je quitte cette voie. Et en fait, le podcast m'a quand même fait rendre compte que je suis très attachée à ce milieu, que c'est aussi une passion, parce que en fait, quand tu as la tête baissée dans ton métier, tu t'éloignes de ta passion. Enfin, ça prend toute une autre tournure, en fait, de travailler dans le spectacle et d'être passionnée par le spectacle. Donc dernièrement, je suis beaucoup retournée voir des spectacles et ça m'a fait énormément de bien. Ça, c'est vrai que c'est un pan que j'ai oublié de dire. Il y a eu donc toute la période où j'étais en apprentissage et où en même temps j'étais sur un spectacle amateur. Et vraiment, j'étais passionnée, je ne vivais que pour ça. Et j'ai mis de côté certainement, par la force des choses, ma vie personnelle. Et ensuite, donc j'ai enchaîné le travail, le CDI, j'ai quitté mon CDI, ensuite j'ai été intermittente. Ensuite il fallait voilà, peut-être au moins 2 ans où je me sente vraiment à l'aise, où je sentais que ça y est, j'avais mes employeurs, j'avais du travail. Au fur et à mesure j'ai pu me déstresser, me détendre et me dire que ça y est, tout va bien. J'ai repris en main ma vie personnelle, j'ai eu plus de temps enfin pour ma vie personnelle et pour la remettre au premier plan. Et notamment, quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est le confinement. Le confinement, voilà, tout s'est arrêté pour nous dans le milieu du spectacle. Et donc j'ai eu énormément de temps libre. J'ai eu vraiment plusieurs mois où je ne travaillais plus. On a eu une période aussi que j'ai adorée, où on pouvait travailler, mais on ne travaillait que pour des captations. Vu que le public n'avait pas le droit de venir voir des spectacles, on a beaucoup capté des spectacles. On en a profité aussi pour accueillir des compagnies en création. C'était un moment de ma vie génial, où je travaillais 9h-18h. Je travaillais pas le week-end. Vu qu'il n'y avait pas de spectacle, on se donnait des horaires, en fait, de gens qui ne travaillent pas le soir, quoi. Enfin, on se donnait des horaires de bureau, en fait. À 18h, on terminait. On avait toutes nos soirées, on avait tous nos week-ends. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience du bonheur que c'était que d'avoir ces heures-là. Désolée, ça m'émeut un peu. Ça m'a vraiment reconnectée à la vie. Je me suis dit, mais c'est ça la vie, d'avoir ses week-ends, de pouvoir être avec son compagnon, de pouvoir sortir avec les copains, organiser des repas, voir la famille, juste être chez soi, bah voilà, notamment avec nos travaux, parce que vu qu'on rénove notre maison, avoir tout ce temps libre à deux, ne plus laisser mon conjoint seul le soir, les week-ends, etc. Même si c'est génial aussi, hein, pour lui d'avoir des temps seuls, et pour moi aussi, quand je ne travaille pas, j'adore aussi avoir des temps seuls, notamment pour ce podcast. Voilà, le moment du confinement, ça a été un moment de bonheur intense pour moi, de reconnexion à la vie. Et je crois que c'est à partir de là où je me suis dit, mais attends, est-ce que je vais vraiment toute ma vie travailler comme ça, à faire des horaires pareils, etc. Et je me suis posé énormément de questions. Et aussi le fait que pendant longtemps j'ai été stressée pour faire mes heures, en fait je ne vivais que pour faire mes heures d'intermittence. Et ça, s'il y a des intermittents qui m'écoutent, peut-être vont comprendre ce que je dis et qui vont se sentir concernés pendant peut-être 2 ans, 2 ans et demi. je ne suis plus allée voir de concert, je ne suis plus allée voir de spectacle, parce que aller voir un concert, bah, il faut prendre sa place à l'avance et il faut bloquer une date. Donc, par exemple, si le 3 octobre, il y a un concert au Zénith que je veux aller voir, eh ben, au début de mon intermittence, je ne me serais pas permise d'acheter cette place, même si je meurs d'envie d'aller voir ce concert, parce que j'aurais été en stress de me dire « Mais oui, mais imagine, si on te propose du boulot sur ce soir-là, sur cette journée-là, eh ben, je vais culpabiliser d'aller voir le concert alors que j'aurais pu avoir 8 heures de travail, par exemple. » Et en fait, ça me stressait énormément. Et donc, même les repas de famille, j'étais toujours, bah écoute, je ne sais pas encore si je vais pouvoir venir. Je te dirai certainement au dernier moment. Et donc, voilà, j'attendais d'arriver en fait à une ou deux semaines de ces dates-là pour dire je serai là, je serai présente ou bah non, j'ai accepté un contrat. Parce que tout mon temps était pour éventuellement des contrats. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à me détacher ces dernières années parce que voilà, je sais que j'y arrive. Un statut intermittent, c'est 507 heures, j'arrive à en faire 1000, plus de 1000. Je peux me permettre d'organiser des sorties, de me dire le 3 octobre, je ne vais pas travailler, je bloque cette date pour du perso. Je me dis, ben voilà, je veux aller à ce concert, donc si un employeur me propose du travail le 3 octobre, je dirai que je ne suis pas dispo, point. Et en fait, au début, je n'y arrivais pas à faire ça. Je ne pouvais pas me dire que je pouvais pas dire à un employeur que je ne suis pas disponible alors que potentiellement je peux l'être et qu'en fait, c'est parce que je veux faire un truc personnel sur ce jour-là. Et maintenant, j'arrive à le faire. Je prends des places de concert, je vais voir des spectacles. Ça me fait énormément de bien de me reconnecter à cette passion qui est là au départ. Je crois que je ne l'ai même pas dit quand j'ai commencé à raconter mon parcours professionnel, c'est que je suis rentrée à la fac art du spectacle parce que j'étais passionnée par les comédies musicales. Et ensuite, ça s'est vraiment transformé en passion pour le milieu du spectacle vivant, en fait. Et pour tout ce qui pouvait être spectacle de cirque, certains spectacles de danse, certaines compagnies, certaines pièces de théâtre, voilà, j'aime. Puis les concerts, alors là, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'anime, qui me crée énormément d'émotions, et je m'étais éloignée de ça en travaillant. Et aussi, au-delà du fait d'avoir peur de faire quelque chose de personnel sur une date où j'aurais pu travailler, il y avait aussi le fait que au moment du confinement, j'ai énormément réfléchi et j'ai fait tout un travail sur mes priorités. J'ai lu le livre de Fabien Olicard, « Votre temps est infini ». Et en fait, il y avait tout un exercice pour remettre en priorité toutes les choses que tu fais dans ta vie. Donc moi, j'avais mis mon travail, ma vie amoureuse, les travaux et certains autres trucs. Et notamment, certains autres trucs, c'était vraiment arrivé en bas de l'échelle. Donc ceux-là, je les ai carrément enlevés de ma vie. Et donc, j'ai remis en priorité le travail, la vie perso. Et vraiment, je me suis rendu compte que ma priorité dans ma vie, c'était ma vie personnelle. Mon couple, ma maison, la famille, les amis, etc. Et notamment mon couple, en gros. Et donc, je me suis dit, mon travail passe en deuxième. Et ça m'a fait un switch aussi dans ma tête, de me dire, mais en fait, c'est fini de dire oui à tout et de m'empêcher de vivre des choses. Voilà, le travail, c'est une chose. C'est très particulier, l'intermittence. Voilà, il y a des gens qui pensent que, voilà, qu'on est des feignants parce qu'on travaille pas tout le temps. J'ai décidé de me détacher de cette idée préconçue et de me dire, oui, alors peut-être que c'est vrai. Je vais travailler certains week-ends parce que les spectacles, ça joue les week-ends, mais dans les théâtres subventionnés, ça joue aussi beaucoup la semaine, et ça peut m'arriver d'avoir des périodes où je ne travaille plus les week-ends, et ça vraiment j'en suis très heureuse, et je ne veux plus culpabiliser de ne pas travailler les week-ends ou les soirs, et de me dire, ce week-end-là, je le réserve, c'est pour ma famille, ce week-end-là, on avait prévu de faire ça avec mon mec, je refuserai du boulot. Et parfois, on me propose même pas de boulot, donc c'est très bien, c'est parfait. Voilà, j'ai réservé ce week-end-là, on m'a pas proposé de boulot, donc il n'y a même pas à s'en faire. Et en fait, maintenant, j'assume de refuser du travail, même si je peux. Parce que j'ai prévu de faire autre chose, parce que j'ai un autre projet à côté. Et ça, au début, c'est vraiment pas facile à faire. Après, faut pas croire que je refuse tout le temps. Non. Ça reste assez exceptionnel, ça reste vraiment, voilà, si on me dit, voilà, cette année j'ai eu 30 ans, et j'ai beaucoup de mes amis qui ont 30 ans cette année, alors voilà, il y avait des amis qui me disaient, bah moi je fête mes 30 ans ce week-end-là, ce jour-là, et ben c'est des dates que je réserve, et c'est pas grave. Et en fait, dans mon agenda, je regarde même pas si c'est pour un truc perso ou si c'est pour du boulot. Si on m'envoie un planning, qu'on me dit « alors je te propose le 3 octobre, le 4, le 5 », eh ben je vais dire « bah le 3 octobre, non, je suis pas disponible, le 4, oui, le 5, non, je suis pas disponible parce que j'ai déjà dit oui à un autre employeur ». Et en fait, quand tu fais ça, quand t'es technicien, tu justifies même pas hein, auprès de tes employeurs pourquoi tu dis oui, pourquoi tu dis non. Quand tu dis non, tu n'as pas à justifier. Voilà, l'employeur il sait pas si c'est parce que tu veux faire un truc perso ou parce que tu travailles ailleurs. Ça aussi c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est quand t'es intermittent, tu vas d'un théâtre à un autre, quand t'es artiste c'est pareil, tu vas d'un spectacle à un autre, et en fait les permanents ou les équipes, elles se rendent pas forcément compte que toi t'as travaillé pendant 2 mois sur un truc hyper intense et que t'es fatigué, et voilà, c'est plein de choses ce rythme de vie. Et puis si tu as accepté le boulot, faut pas arriver en étant décalqué, épuisé. Il faut aussi faire des choix quand même cohérents pour dire, bon ben voilà, je travaille jusqu'à 23h la veille, j'ai dit oui pour être à 9h au théâtre, mais voilà, je me reposerai le lendemain, ça va le faire, je vais être quand même assez en forme. Mais voilà, moi je connais mes limites, je connais ma fatigue, je sais que je peux pas accepter 6 jours de suite de faire 9h-23h, quoi. Ça c'est pas possible. Si je me rends compte que je vais être dans une telle situation, voilà, faut réfléchir, faut se dire, bah écoute, là, c'est peut-être mieux de dire non et qu'il embauche quelqu'un d'autre qui va être plus en forme, quoi. C'est plein de choses, c'est plein de choses comme ça. Ah. Tout le long de ce podcast, je t'ai tutoyé parce que dans le théâtre, généralement, tout le monde se tutoie, c'est plus simple et c'est ce qui fait aussi que c'est un peu plus cool. Ça, j'en ai pas parlé, j'ai l'impression d'avoir dit un peu que les côtés négatifs du métier, mais moi aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est mes collègues, par exemple, d'un théâtre à un autre. Voilà, il y a plus ou moins de feeling, il y a des collègues avec qui je passe plus de bon temps ou d'autres où on rigole. Globalement, dans tous les théâtres où je vais, ce qui me motive aussi, c'est que je sais qu'on va rigoler, qu'on va se raconter nos vies, qu'il y a tel collègue que je vais revoir que j'ai pas vu depuis longtemps et je suis contente. Et ça, vraiment, le côté humain de ce métier-là, c'est vraiment quelque chose qui me fait pour le moment vraiment ancrer encore dans ce métier de la technique. Parce que on s'amuse bien et c'est plus détendu que certains métiers dans des bureaux où ça reste très formel. Et peut-être le fait aussi de faire un métier physique où on doit travailler en binôme ou bah, peut-être que ça crée aussi plus de proximité et plus d'échanges qui peuvent être personnels ou pas. Après voilà, on n'est pas obligé de tous être copains, hein. Ça, moi je suis la collègue un peu relou qui souvent refuse de boire des coups, ou qui peut parfois ne pas trop raconter ma vie. Je ne suis pas copine avec tout le monde. Je pense que je m'entends bien avec pas mal de gens. C'est assez rare de vraiment pas m'entendre avec quelqu'un. Mais voilà, le côté humain, c'est vraiment cool, quoi. Enfin, surtout, voilà, entre intermittents. Le personnel permanent, bah, des fois, il y a plus de distance. Parfois, au contraire, il y a des lieux. Voilà, là, je suis en train de penser à des lieux où les permanents, je les adore. J'adore les retrouver. Mais voilà, c'est... Alors oui, il y a peut-être la notion de famille, voilà, qui peut se créer dans certains lieux. Beaucoup de moments amicaux. Et aussi la notion un peu où on se raconte plus facilement des choses personnelles ou l'aspect familial, ça crée aussi des embrouilles ou des moments qui peuvent être un peu plus tendus. Parce que si on se permet plus de choses avec une personne, dans un sens, on va aussi plus s'en permettre dans les moments de dispute ou de stress et tout ça, quoi. Ou si quelqu'un a merdé, on va plus se disputer avec moins de formalité que si on était juste des collègues comme ça de bureau, quoi. Donc voilà, il y a des inconvénients et des avantages dans tous les métiers. Une chose aussi qui m'a vraiment marquée, qu'un régisseur a dit dans la première formation que j'ai faite, c'est qu'on ne fait que du spectacle. Donc dans les moments où ça se dispute, où il y a la pression, où il y a du stress, où on peut se mettre un peu dans tous ces états, dans les pleurs, dans des choses comme ça, faut redescendre. C'est une phrase que je garde en tête vraiment régulièrement. On ne fait que du spectacle, on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Des fois, ça part en vrille parce que un tel il est pas content, parce que tel effet il a pas fonctionné, ou parce que il y a eu un problème sur, je sais pas, un précipité par exemple, qui doit se faire en 2 minutes, et ben là on a eu une galère et ça s'est pas bien passé, et il y a eu un moment de flottement pendant le spectacle que le public a à peine remarqué, et ben voilà, du coup il peut y avoir des disputes, des déceptions, et en fait stop, on ne fait que du spectacle, les gens sont là pour passer un bon moment, il n'y a pas à trop s'en faire, tant que c'est pas un problème de sécurité ou que ça peut mettre en danger la vie de quelqu'un, voilà, faut aussi redescendre et revenir un peu les pieds sur terre. Voilà, c'est une des choses qui m'a marquée et je vais terminer sur ça. Enfin, je pense que j'ai tout dit, je te laisse, merci d'avoir écouté mon podcast, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir vos retours. Merci à tous ceux qui m'écrivent et qui prennent le temps de me dire ce qu'ils ont pensé des épisodes. N'hésite pas à partager. Le podcast est sur Instagram, c'est là que tu trouveras toutes les infos. Souvent je dis à l'avance l'épisode que je suis en train de préparer, ou alors je fais des sondages auxquels tu peux participer. Donc n'hésite pas à rejoindre l'Instagram La Joie de Camille. Et je te remercie encore, j'ai été très heureuse de reprendre le micro. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu as hâte de retourner au théâtre. Je te dis à très vite.